Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Téhéran sous pression maximale.
Et oui, ça rime, ou presque en tout cas, avec Donald Trump qui a annoncé lundi la fin des dérogations pour 8 pays qui achetaient encore du pétrole iranien. Désormais, il risque des sanctions américaines. Presque un an donc après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire, Trump poursuit la stratégie de la pression maximale, comme il l'a appelé, en espérant faire plier le régime. Stratégie appliquée à la Corée du Nord, au Venezuela, est-elle transposable à l'Iran? On voit ça avec vous, Thierry Coville, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être venu ce matin. Vous êtes professeur d'économie internationale à la Novantia Business School et chercheur associé à l'IRIS, auteur d'Iran, La Révolution Invisible. Alors là, ces sanctions, donc applicables à partir du 2 mai, Trump entend porter à zéro les exportations, hein, je le cite. Il y avait déjà eu la sortie de l'accord et le rétablissement le 7 août dernier d'importantes limitations commerciales. Est-ce qu'on peut dire désormais que ce sont les plus grandes pressions économiques jamais exercées sur l'Iran aujourd'hui?
Ah oui, tout à fait. Même avant ça, hein, je pense que j'avais regardé récemment dans l'histoire économique, même on ferait voir, même à long terme, est-ce qu'on a eu une telle pression économique d'une telle ampleur, parce que c'est quand même un pays de 80 millions d'habitants. Et l'objectif, en gros, bon, excusez-moi, mais pour faire simple, c'est de les affamer. C'est de les affamer pour qu'ils sortent dans la rue et qu'ils conduisent éventuellement un changement de régime ou qu'ils forcent le gouvernement iranien à accepter les 12 points de négociation
qui avaient été annoncés
par Pompeo. Donc effectivement, c'est là, de ce côté-là, Trump a raison. Une telle pression appliqué à tellement de personnes, on a rarement vu ça dans l'histoire.
Alors justement, qu'on reste sur cette stratégie américaine, donc déjà des sanctions sur des activités commerciales l'année dernière, il y avait l'aviation, l'automobile, désormais donc des sanctions sur les importations de pétrole iranien qui représentent 40% je crois des recettes financières du régime, mais déjà aussi beaucoup de multiplication des protestations internationales de la part des acheteurs du pétrole, la Chine notamment, et l'Inde ou la Turquie. Est-ce que c'est pas un trop gros morceau pour être décidé unilatéralement, ces sanctions-là?
Alors, ça, c'est le problème de la politique américaine depuis le début. Ce qui est aussi, si vous voulez, là, je presse, c'est presque un cas d'école. Je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de pays qui se sentent concernés. Parce que bon, déjà, il y a le pourquoi ils font ça. Là, vous voulez, les États-Unis, entre guillemets, s'assoient sur le droit international, puisque c'est un accord, si vous voulez, signé par 6 pays, plus l'Iran, validé par une résolution des Nations Unies, dont ils sortent sans raison. Donc ils sont en dehors du droit international. Ils appliquent une politique extraterritoriale, comme vous l'avez dit. Ils appliquent. C'est ça qui est intéressant, c'est que les États-Unis, du fait de leurs propres sanctions, ne commercent plus avec l'Iran. Donc il y avait une remarque d'un expert, là, Kenneth Katzman, hier, il disait que c'est pas un embargo. C'est des sanctions pour que les autres pays appliquent un embargo. Donc il y a un côté extraterritorial qui commence à devenir... C'est comme l'éléphant dans la maison, quoi. C'est tellement énorme. Les États-Unis disent à d'autres pays, bah, nous, on commerce plus avec l'Iran, mais vous non plus, vous n'avez pas le droit. C'est complètement extraordinaire. Et c'est pas nouveau. Là, effectivement, c'est un choc maximum sur l'économie iranienne parce que les exportations de pétrole de l'Iran, c'est quand même 80% des recettes en devises, 40% des recettes de l'État. L'embargo américain décidé depuis novembre 2018 a déjà conduit une baisse de 50%. Des exportations pétrolières iraniennes qui sont passées de 2,3 millions de barils par jour à 1,2 million aujourd'hui, en mars 2019. L'objectif des États-Unis, c'est qu'ils arrivent à zéro, donc c'est de priver l'Iran de 80% de ses recettes en devises et de 40% de ses recettes budgétaires. Et là où c'est énorme aussi, c'est quand on entend Pompeo dire, souvent on comprend bien son discours, c'est avec cet argent, l'Iran finance le Hezbollah et son activités en Syrie, mais c'est 40% des recettes de l'État, donc c'est aussi l'argent qui permet de payer les fonctionnaires, de faire tourner l'économie iranienne.
Donc ces sanctions sur le pétrole, elles vous semblent quand même applicables ou non, puisque il y a la question de la compensation justement de la baisse de production. Là, Donald Trump a tweeté, l'Arabie Saoudite et d'autres pays de l'OPEP feront plus que compenser la différence de production de pétrole, c'est pas encore gagné.
Oui, alors d'après ce que disent les spécialistes du marché pétrolier, il y a pas mal d'incertitudes parce que ça intervient à un moment où il n'y a pas que le problème de l'Iran. Il y a la Libye où la production pétrolière, du fait de la situation dans le pays, la production pétrolière libyenne a baissé. Après ce que je viens d'entendre dire, l'Angola est à un point bas en termes de sa production pétrolière. Vous avez un pays comme le Venezuela dont les exportations ont très très fortement diminué. Donc il y a un certain nombre d'incertitudes sur la capacité même des pays comme l'Arabie Saoudite de véritablement compenser la baisse de la production pétrolière iranienne. Et puis il y a un deuxième problème qui est est-ce quand les États-Unis disent qu'ils vont arriver à zéro, hein, c'est énorme quand même, ils veulent priver l'Iran de toutes ses exportations pétrolières. Bon, la Chine vient de dire non, et la Chine quand même achète la moitié du pétrole iranien. Vous avez également un autre client important, c'est l'Inde. Alors l'Inde est plus sensible géopolitiquement aux États-Unis que la Chine, mais quand même l'Inde est contre cette politique unilatérale américaine. Vous avez également la Turquie qui vient de dire non, on n'accepte pas le diktat américain.
Oui. Et alors, on va revenir aux conséquences diplomatiques, mais pour ce qui est de l'Iran, vous l'avez déjà un peu évoqué, combien de temps la récession, puisque ça fait déjà 2 années que le pays est en récession, et les pénuries que vous évoquiez, peuvent-elles durer, pour le dire comme ça?
Ah oui, mais de toute façon, vous voulez, les autorités iraniennes savent bien, si vous voulez, quand on prive un pays, quand on me dit, voilà, qu'est-ce que peut faire l'Iran? Imaginez, en France, on prive le gouvernement iranien de, là, je vous dis, c'est les exportations de pétrole, c'est 40% de ses recettes budgétaires, donc elles ont diminué de moitié, donc là, ils ont perdu 20%, un cinquième de leurs recettes budgétaires. Qu'est-ce que peut faire un pays? Donc c'est la crise économique en Iran, c'est la récession, l'inflation atteint 30%. L'idée, très clairement, des autorités iraniennes, c'est faut tenir. Alors l'idée, c'est qu'est-ce qu'à mon avis ils sont en train de mettre en place des programmes pour que les classes les plus pauvres arrivent à tenir le coup. Ils en sont là parce que effectivement c'est eux qui soufflent de cette accélération de l'inflation. Il y a l'idée aussi de faire un ensemble de choix budgétaires pour arriver à compenser. Si vous voulez, il y a déjà eu 50% de baisse d'exportation pétrolière. On se dirige vers peut-être, on va passer peut-être de 1,2 million de barils jour à éventuellement. Le scénario catastrophe, ça pourrait être 500 000 barils le jour. Donc, ils peuvent perdre, on va dire, encore plus de 50% de leur recette budgétaire. Donc, là, il y a d'autres possibilités. Par exemple, il y a la politique de revenu universel qui avait été mise en place par Ahmadinejad. Le gouvernement iranien dépense beaucoup, beaucoup d'argent de ces versements liquides à une grande partie des Iraniens. L'idée, ce serait, ils pourraient faire énormément d'économies. C'était la presse iranienne en discutait, simplement en orientant ce revenu universel vers les plus pauvres. Et donc, il pourrait éventuellement compenser cette baisse des recettes pétrolières qui s'annonce.
Oui, avec cette nécessité qu'il faut répondre en ce moment à des situations, plutôt une situation de crise, les inondations. Justement, est-ce que c'est pas quelque chose qui va précipiter, ou infléchir les décisions du régime? Qu'est-ce que ça peut changer?
Alors, si vous voulez, le gouvernement iranien, il a bien compris, il doit faire attention, c'est qu'effectivement, il y a des situations de crise à laquelle il doit répondre, parce que c'est, pour n'importe quel pays, c'est votre légitimité qui est en jeu. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces situations de crise.
200 000 personnes qui ont fui leurs habitations déjà.
Il y a eu près de
76 morts au 15 avril. Ouais.
Donc c'est une catastrophe, c'est jamais arrivé en Iran depuis longtemps. Donc il doit gérer cette situation de crise, etc. D'un autre côté, on vient d'en parler, il doit faire attention à pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pas dépenser tout l'argent d'un coup, pour se préparer à tenir. Parce que la grande question, c'est effectivement, faut tenir au moins jusqu'à la prochaine élection présidentielle américaine. C'est pour ça que le guide vient, vous savez, l'Iran a une sorte de fonds de réserve, où ils ont mis les excédents pétroliers. Le guide vient de dire qu'on ne dépense, ce qui est pas évident politiquement, il est de dire on n'utilisera pas cet argent pour aider ceux qui ont des problèmes à cause des inondations, parce que l'idée c'est de garder cet argent pour tenir dans les prochaines périodes.
Bon, alors ça c'est pour le calendrier électoral américain. Il y a également le calendrier électoral iranien 2019, élections législatives, et 2020, élections présidentielles. Comment est-ce que vous verriez les choses une fois étant posé qu'il y a effectivement aussi l'échéance pour Donald Trump? Est-ce que un infléchissement réel, un geste du gouvernement iranien pour dire oui, on va accepter un des points parmi les 12 proposés par les États-Unis est possible, ou alors les tensions qui dégénèrent et le risque du blocage, encore une fois, du détroit d'Ormuz, c'était déjà arrivé.
Alors,
par où transite le pétrole?
Ça fait 30 ans que je travaille sur l'Iran, j'évite toujours de faire des prévisions comme ça sur qu'est-ce que va faire le régime iranien. Mais ce qu'on sent bien, si vous voulez, c'est là où peut-être on peut aussi critiquer la stratégie américaine, c'est la façon dont Trump a posé les choses avec ces 12 points qui ont été posés. Si vous voulez, du côté iranien, ils ont le sentiment que c'est une politique pour changer le régime, si vous voulez. Et ils ont le sentiment, ils parlent de guerre économique, ils parlent même de terrorisme économique. Donc je pense que politiquement, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. À mon avis, ils se tirent une balle dans le pied. Pour n'importe quel dirigeant iranien de dire actuellement, comme vous dites, on négocie sur un des 12 points. C'est là où effectivement on a la... Donc là, à mon avis, l'option la plus probable, c'est que déjà en plus la classe moyenne iranienne, elle est complètement dégoûtée. Elle va sans doute pas. Ceux qui soutiennent les modérés, ils en ont marre. Ils voient une situation économique. Ils pensent d'abord à tenir le coup pendant les prochains mois. Donc ils vont sans doute pas aller voter. Donc on aura un taux de participation faible pour répondre à votre question. Donc on peut s'attendre à plutôt un entre les conservateurs durs ou radicaux qui vont s'allier sans doute et qui vont peut-être rafler la mise à la fois aux législatives, aux présidentielles. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent négocier avec l'Iran.
Et autre fiction ou anticipation, en un mot, si le régime, justement, ne plie pas comme le voudrait Donald Trump, que les conservateurs gagnent les élections 2019-2020, est-ce que ça veut dire que l'accord sur le nucléaire, à ce moment-là, risquerait réellement d'être mort ?
Non, parce que pour l'instant, si vous voulez, c'est assez collégial la façon. Donc, on va dire la stratégie du régime iranien, c'est de rester dans l'accord. Parce que là, ce qu'ils ont bien compris, c'est que les Américains veulent qu'ils en sortent. Parce que là, au moins, ils souffrent beaucoup, mais ils se sentent en position de force. Que c'est pas fréquent où l'Iran dit nous, on respecte le droit international et pas les États-Unis. Mmh. Les États-Unis sont les voyous. Donc là, ils sont assez contents de cette situation. Donc, ils ont bien compris qu'ils ont un avantage. Par contre, et là je suis d'accord avec vous, je pense que ça va dépendre de la situation économique et des équilibres politiques internes. Si un groupe radical qui est opposé, parce qu'il y en a certains qui sont opposés à l'accord depuis longtemps, commence à gagner éventuellement la majorité au Parlement, etc., et a un bon candidat pour les présidentielles, là effectivement, on peut craindre ce type de scénario. Mais pour l'instant, c'est pas le scénario que je privilégierais.
Bon, bah, ce sera observé pour 2019-2020. Et puis le 2 mai, le rétablissement de ces sanctions sur les pays qui achètent du pétrole iranien. Merci beaucoup Thierry Coville pour vos explications aujourd'hui.